Peut-être que depuis toujours dans votre tête, les lettres et les chiffres ont des couleurs ou des personnalités, que la musique est une vibration que vous distinguez dans l'espace, ou alors encore que les formes ont un goût.
Sachez qu'il y a un mot pour désigner ces capacités, c'est la synesthésie, et on en parle justement ce matin dans Format à 3.
Avec la professeure Stéphanie Clark, chef de service neuropsychologie et neuroréhabilitation au CHUV à Lausanne. Bonjour.
Bonjour.
La synesthésie, si on décortique le mot, ça veut dire quoi ?
Ce mot décrit une situation où une sensation de quelque chose qui est là, réellement, est associée à d'autres perceptions. Donc, par exemple, on perçoit un stimulus d'une modalité sensorielle et en même temps, on perçoit des sensations d'une autre modalité sensorielle ou d'une autre catégorie de perception.
Ce sont donc des sens qui sont associés, hein, voir les lettres et les chiffres en couleur, leur approprier une personnalité, oui. Voir les vibrations de la musique, ce sont des manières justement d'être synesthète.
Exactement, et il existe toute une variété. Donc ça peut être quelque chose de visuel qui est associé à quelque chose d'auditif, comme mouvement visuel, à des perceptions de bruit, ou des bruits associés, ou des mots associés à quelque chose de visuel, flash, ou des couleurs, des goûts. C'est vraiment une chose assez surprenante quelque part. Et c'est involontaire. Les personnes ne l'évoquent pas volontairement. Ça arrive tout simplement.
Ça veut dire que c'est un peu comme si les cinq sens étaient un peu mélangés et avaient des associations entre eux que la majorité des gens n'ont pas ?
Exactement. Pour certaines des personnes, c'est toujours les mêmes associations, par exemple lettres et couleurs, etc. Pour d'autres, il y a plusieurs sens qui peuvent être impliqués.
Alors, il y a le visuel, il y a certains sens, il y a aussi l'émotionnel. Il y a des personnes qui voient, par exemple, les lettres avec des personnalités.
Mais oui, tout à fait. Donc, en effet, ce n'est pas que les parties du cerveau qui s'occupent de la perception sensorielle, mais aussi des structures qui nous aident à vivre notre émotionnel qui apparemment sont impliquées. Oui.
Alors, quand on est synesthète, est-ce qu'on se rend compte qu'on est différent, qu'on a une capacité différente des autres, ou alors c'est quelque chose qui ne se découvre que si on s'en ouvre au reste du monde ?
En fait, beaucoup de synesthètes disent qu'ils pensaient que c'était quelque chose de normal, que tous les autres perçoivent le monde de la même façon, qu'il y ait les mêmes associations. Et c'est en comparant les notes sur les perceptions que des personnes qui ont des synesthésies se rendent compte. Et bien sûr, maintenant, lorsqu'on parle de cette situation de synesthésie, les personnes en parlent aussi plus souvent et on a plus de témoignages que dans le passé.
Comment on peut expliquer ce phénomène ? Ce sont des canaux qui se rencontrent, qui se croisent, des nerfs qui finalement s'entremêlent. Comment on peut imaginer ça ? Comment on peut imaginer ?
Oui. Alors, l'information des différents sens arrive dans notre cerveau séparé. La vision par l'œil, bien sûr, l'audition par l'oreille, etc. Et cette information reste séparée pendant un petit bout du traitement au niveau du cerveau. Mais très rapidement, il y a des contacts. Enfin, finalement, si nous voyons une personne qui parle, nous avons une perception unifiée de cette personne. Donc c'est normal qu'il y ait des connexions, des liens entre les différentes modalités sensorielles. Mais ce qui arrive, et on pense qu'il arrive chez des personnes qui ont des synesthésies, c'est que ces connexions existent en surnombre. Et que ça arrive au niveau du développement. Lorsque le cerveau humain se développe, c'est avant la naissance et en partie aussi après la naissance, il y a des connexions dans le cerveau qui se forment. Et on présume que dans cette condition, il y a certaines connexions qui se forment chez les personnes avec synesthésie et pas chez les autres.
Ça veut dire qu'on est synesthète, c'est une question de génétique, on ne le devient pas par la suite.
Alors, c'est un tout petit peu pas aussi clair que ça. Des études sur des jumeaux, des vrais jumeaux, montre qu'il y a une fréquence augmentée de synesthésie chez des vrais juments, mais ce n'est pas 100%. Donc, ce n'est, si un des juments est synesthète, ce n'est pas automatiquement l'autre qui l'est. Donc, ça doit quand même être influencé par des facteurs très individuels du développement du cerveau. Actuellement, il y a plusieurs études qui ont été publiées qui ont comparé des profils génétiques des synesthètes. Et ce qui est intéressant, que pour certaines formes au moins, il y a des particularités dans les gènes qui codent pour des événements lors de la formation des connexions dans le cerveau. Donc, tout ça se met un peu, notre compréhension est juste de dire c'est plutôt des connexions dans le cerveau qui sont légèrement différentes.
La synesthésie, professeur, c'est une pathologie ou c'est un sujet d'étude, une façon d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du cerveau et de notre système neurologique?
En soi, la synesthésie n'est pas une maladie. C'est une autre façon de fonctionner. On a d'autres exemples du fonctionnement tout à fait normal, donc chez des personnes qui ont une vie par ailleurs tout à fait normale, où on peut avoir des particularités du fonctionnement cérébral. Maintenant, il est vrai que on peut trouver la synesthésie dans certaines conditions, dans certaines pathologies, associées à certaines pathologies. Aussi des pathologies relativement graves qui vont avec un handicap mental. Mais ce n'est pas la synesthésie en soi qui est le problème. C'est un symptôme en plus dans cette condition. Mais beaucoup de personnes qui ont une synesthésie ont un très bon fonctionnement, très haut fonctionnement par ailleurs, du point de vue intellectuel, etc.
Jamais 203. Format A3.
Nous sommes de retour avec la professeure Stéphanie Clark, chef du service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation au CHUV à Lausanne.
Et justement, nous parlons de synesthésie ce matin avec vous.
Professeur Stéphanie Clark, combien est-ce qu'on peut estimer de personnes synesthètes en Suisse?
Alors, la plupart des études proposent que c'est un peu moins d'1% de la population. Donc, vous pouvez le calculer, 8 millions de personnes en Suisse. On est franchement à peu près 80 000 personnes, peut-être. Donc, un nombre assez important.
Les personnes qui sont synesthètes, est-ce qu'elles le vivent mal? Est-ce qu'elles consultent? Ou alors, finalement, elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont cette petite différence?
Alors, c'est-à-dire, les études qui ont été faites chez les jeunes, c'était sur des annonces qui expliquent qu'est-ce que c'est la synesthésie et ils recherchent activement des personnes avec ce profil-là. Souvent par des étudiants de l'université, donc on a une sensibilisation. Nous avons rarement à notre consultation des personnes qui viennent avec une plainte « je suis synesthète, ça me gêne ». Donc, je crois qu'on m'a comprendre d'une façon plus anecdotique qu'autre que c'est une perception relativement plaisante, plutôt rassurante, qui donne une dimension de plus à ce que la personne vit. Mais là, il faudrait probablement parler avec quelqu'un qui vit ici la synesthésie.
Est-ce que ça peut être perturbant pour le travail, notamment d'un élève qui est en classe? Est-ce qu'il est important de pouvoir sensibiliser le corps enseignant à la synesthésie?
Je crois que ce sera important. De la même façon qu'on les sensibilise à la dyslexie, dysgraphie, ou dyspraxie, ou d'autres difficultés, ou d'autres particularités, je dirais, de développement. Parce qu'en effet, selon les perceptions, l'élève peut être un peu plus perturbant. Ça dépend. Oui.
Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, il y a des pathologies où il y a plus de synesthètes. Par exemple, le syndrome, le spectre autistique, les personnes sont plus enclines à présenter de la synesthésie.
Tout à fait. Donc, parmi les personnes qui présentent des traits autistiques, mais avec un haut fonctionnement intellectuel, on trouve davantage de synesthètes. Et lorsqu'on regarde les profils, en fait, les synesthètes et les personnes avec ce profil, avec les traits autistiques, ont une particularité dans leur fonctionnement attentionnel. Ils ont la capacité de concentrer l'attention sur les détails, donc avoir une attention bien ciblée, beaucoup plus que d'autres personnes. Donc, ça correspond probablement aussi à un profil de fonctionnement cérébral.
C'est des personnes qui ont des aptitudes particulières, des talents particuliers. Est-ce que, je ne sais pas, on trouve beaucoup d'artistes, par exemple, chez les personnes qui sont synesthètes?
Alors, anecdotiquement, oui. Mais de point de vue nombre, c'est pas extrêmement bien documenté dans les études. Par contre, si on prend les personnes qui rapportent une synesthésie, on regarde leur profil de personnalité, on se rend compte que ils frappent par une intelligence bien développée, par un esprit d'ouverture, aussi par une capacité de gérer des émotions. Donc, dans les études, mais bien sûr ça se fait dans un contexte très particulier, on a un profil de personnalité qui est associé avec la synesthésie.